18-20. Fabienne Saintès.
Notre nom est-il ce que nous sommes ? Notre nom porte-t-il une charge qui parfois est trop lourde, un abandon paternel, des violences répétées ? Ou notre nom est-il parfois, au contraire, une charge que l'on veut prendre sur nos épaules parce qu'il nous constitue des origines, une histoire, un passé ? Notre patronyme, c'est sans doute la seule chose qu'on ne choisit pas du tout dans la vie et que l'on emporte avec soi, avec tout le bagage qui va avec. Alors on peut changer de nom. En France, si vous avez un nom ridicule, si vous avez le nom d'un serial killer, on y viendra peut-être, si votre nom d'usage a fini par dépasser votre patronyme en notoriété. On peut aussi garder son nom et accoler celui de sa mère, évidemment, juste après. Tout ça, c'est long, c'est semé d'embûches, on y viendra aussi. Et puisque le législateur a oublié, c'est l'affect. Et vient de passer en première lecture une proposition de loi qui permet de tout simplifier et parle à la fois d'intime et d'égalité. Cette proposition dit qu'un passage à la mairie suffit et elle intègre qu'on peut très mal vivre toute sa vie de porter le nom d'un père violent, d'un père incestueux, d'un père absent, et donc préférer porter le nom de sa mère. Elle parle à nos vies modernes, à nos sociétés contemporaines, où une mère divorcée ne devrait pas avoir à montrer son livret de famille pour récupérer ses enfants à l'école parce qu'ils ne portent pas le même nom qu'elle. Vous êtes peut-être dans ce cas-là, ou un autre très précis. Vous voulez changer votre patronyme, est-ce que vous osez ? Est-ce que la question de la transmission, est-ce que la question de l'identité se pose ? C'est le téléphone sonne ce soir, et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Martine, c'est vous la première. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir. Merci pour ces émissions. Donc, je voulais savoir s'il existerait dans cette proposition de loi une liste restrictive sur les motifs de changer de nom, car nos enfants qui sont nés avant la possibilité de porter les deux noms du père et de la mère, depuis très longtemps, se disaient, ben, y en a un qui portera le nom du père et le nom de la mère, pour garder dans la lignée aussi un nom qui risque de disparaître. Voilà, et je trouve que c'est aussi l'occasion de votre émission de rappeler combien il est peu utilisé au niveau de l'état civil la possibilité pour les enfants qui naissent maintenant de porter et le nom du père et le nom de la mère ou l'un des deux d'ores et déjà. Donc c'est important aussi de pouvoir diffuser cette question. Et ma question est, est-ce qu'il y aura une liste restrictive ou est-ce que cela peut correspondre au-delà des situations graves que vous avez introduites dans votre
propos. On a entendu, absolument.
Bien sûr, et qui sont fondamentaux, une possibilité de pouvoir garder la lignée d'un nom auquel nous tenons.
Merci Martine, merci beaucoup pour cette entrée en matière, pour répondre à vos questions et discuter ensemble jusqu'à 20h. Caroline Elkoubi-Salomon est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocate spécialisée en droit de la famille et Martine Gatineau-Dupré est là également, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, formidable. Vous êtes fondatrice du collectif Porte mon nom, c'est intéressant parce que vous avez deux noms à coller l'une comme l'autre. Est-ce que vous avez votre père et votre mère, Caroline Elkoubi-Salomon ?
Non, le nom de mon père et le nom de mon mari à titre d'usage.
Eh ben voilà comme quoi, voilà. Alors, pour répondre rapidement à la question de Martine, on n'a pas ouvert toutes les vannes avec cette loi, pas du tout. On ne va pas pouvoir, là, subitement, changer de nom à loisir, on va le dire comme ça, Caroline Elkoubi-Salomon.
Il y a différentes choses. D'abord, faudrait peut-être savoir ce qu'on pouvait faire avant et ce qu'on peut-être on pourra faire à partir du mois de juillet. En tout cas, pour répondre précisément à la question, il y a deux choses qu'il faut différencier. C'est changer de nom.
Enfin, porter. Vous interrompez. Vous êtes à côté de votre micro.
Ah pardon, excusez-moi.
Voilà,
oui,
il est là.
Pardon, vous m'entendez. Il faut distinguer le nom qu'on pourra prendre à titre d'usage, parce que la loi distingue, enfin les amendements distinguent deux choses qu'on pourra prendre à titre d'usage et faire une demande de changement de nom à proprement dit, c'est-à-dire qui va changer l'état civil. Donc, est-ce qu'il y a une liste restrictive ? D'abord, les deux sujets concernent le nom, enfin est-ce qu'on pourra à titre d'usage ou de changement de nom prendre le nom de ses parents,
ça ? C'est ça, on va pas subitement s'appeler
l'autre ou les deux. Il s'agit pas de changer de nom parce qu'on a un nom à consonance ridicule ou
exactement.
Ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Ça n'a pas bougé, et a priori ça ne bougera pas, en tout cas pas tout de suite.
Et on est d'accord qu'il n'est pas question de prendre un nom qu'on aurait inventé, qui sortirait de je ne sais où, etc.
On peut essayer, mais ça ne marchera pas.
On est d'accord, voilà. Pour que les choses soient bien
claires. Il faudra passer par le garde des Sceaux.
Voilà.
Donc, à titre d'usage, toute personne majeure pourra, à titre d'usage, porter soit le nom de son père, soit le nom de sa mère, soit adjoindre, intervertir les noms qu'il a. Donc, ce sera soit interversion, substitution, adjonction, dans le choix, dans l'ordre qu'on veut. Et c'est un titre d'usage, en tout cas.
Faut-il être majeur ou est-ce qu'un mineur peut faire cette demande maintenant?
Alors, à titre d'usage?
Alors, par exemple, d'abord.
Alors, à titre d'usage, d'abord, c'est toute personne majeure. Voilà. Peut, okay. À titre d'usage. Et le faire opposer à l'administration, parce que c'est ça, à titre d'usage. Hein. Mm-hmm. Donc, toute personne majeure. Et à l'égard des enfants mineurs, cette faculté, donc c'est pas l'enfant qui va le demander, mm-hmm. mais c'est son parent. Donc, ses parents pourront le mettre en œuvre à condition qu'ils aient l'autorité parentale et à condition qu'ils soient d'accord. Sauf pour le parent qui exerce seul l'autorité parentale, mmh. à ce moment-là, il pourra le faire seul.
Et alors, à quel moment on peut faire la démarche pour changer l'état civil, pour le coup?
Alors,
donc, ne pas se contenter de l'usage.
Ça n'apparaît pas sur l'état civil.
Exactement.
Ça peut apparaître sur les papiers d'identité, mais pas sur l'état
civil. Exactement. Donc, à quel moment on...
Pour la question des changements de nom, qu'est-ce qui est nouveau? C'est que toute personne majeure, donc on reste sur les personnes majeures, pourra demander donc à l'officier d'état civil. Donc là, c'est une grosse avancée, puisqu'avant, il fallait demander au garde des Sceaux, et je vous expliquerai peut-être tout à l'heure la procédure, qui était quand même très longue,
très loin,
complexe, difficile d'accès. Moi, j'ai amené quelques décisions. Enfin, c'est un peu des années quand même. Mmh.
C'était 6 ans, paraît-il, la moyenne, hein, ce qui est très long.
Ça dépend s'il y a eu un refus. S'il y a un refus, effectivement, c'est le tribunal administratif, cour d'appel administrative, conseil d'État. Mais en tout cas, devant le garde des Sceaux, à minima... un an, voire un an et demi.
Donc, en tout cas, on parlait du vrai changement, c'est-à-dire donc, l'inscription à l'état civil.
Donc, on demandera à l'officier d'état civil, de son lieu de résidence, son changement de nom. Et donc, on pourra, pareil, par inversion, on pourra demander l'ordre des noms. On pourra changer l'ordre des noms choisi par ses parents. On pourra substituer le nom de son père au nom de sa mère, ou inversement. On pourra adjoindre. Le nom de son père ou de sa mère, je dis son père ou de sa mère, ça peut être chacun de ses deux parents en tout cas.
Ouais.
Parce que la loi dit le parent, hein, ne dit pas père et mère. Voilà. Et on peut le faire une fois.
Alors voilà, Martine Gatineau-Dupré, vous qui militez depuis très longtemps dans le collectif Porte mon nom, est-ce que vous diriez qu'on fait un pas de géant quand même avec cette proposition ou pas?
Ah oui, alors moi c'est Marine, déjà juste...
Pardon, comment je vous ai appelée?
Martine.
Ah bah pardon, non. Marine, non mais c'est
après,
tout à fait écrit Marine sur
Martine
mon papier.
À la radio,
non,
Martine.
Non mais pas du tout.
C'est pas grave. Non, c'est vraiment une avancée majeure parce qu'en fait, donc il y a bien en effet deux articles qui sont mis en avant dans la proposition de loi du choix issu de l'affiliation. L'article 1 qui concerne le nom d'usage pour les mineurs. Donc ce serait pouvoir adjoindre le nom du parent qui n'a pas pu ou pas voulu le mettre à la naissance sans l'autorisation de celui-ci. Et il faudra juste le prévenir. Et c'est le parent qui, du coup, à ce moment-là, s'il n'est pas d'accord, pourra solliciter le juge des affaires familiales. Donc ça, c'est l'article 1. Donc ça, c'est une avancée parce qu'actuellement, si le parent s'y oppose, eh ben c'est fini pour les mineurs. Et donc ça, c'est... tout ce qui est administratif pour cesser l'invisibilité du parent qui a pas pu le mettre, c'est vraiment pénible dans le quotidien de cette lourdeur. Et après, donc il y a l'article 2 qui en effet serait une réelle avancée si c'est voté. On a reçu énormément de témoignages, que ce soit pour l'article 1 ou l'article 2. Et il y a une réelle attente, vraiment. En effet, c'était très long. Hein.
L'idée
très
d'accoler long, le nom du père, le nom de la mère, est-ce que vous réclamiez l'automaticité, en fait? Est-ce qu'on est très loin de cette automaticité? C'est-à-dire, à chaque enfant qui naît désormais, on fait nom du père, nom de la mère, donc au fond, à l'espagnol. Parce qu'elle avait raison, notre auditrice, tout à l'heure, on a le droit de le faire depuis un bout de temps maintenant, ça doit faire une quinzaine d'années, si je ne m'abuse, et finalement, c'est très peu utilisé.
Oui, en effet. Mais en fait, nous, à la base, on demandait pas l'automatisation, on demandait automatisation par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, quand le papa il va déclarer l'enfant, on met le nom du père par défaut. S'il veut mettre les deux noms, qui est possible, il faut qu'il remplisse un CERFA et qu'il fasse donc signer la maman.
Un document administratif.
Voilà. Et donc, nous, on demandait que ça soit plus simple et qu'il y ait une information là-dessus. D'ailleurs, ils l'ont évoqué lors des débats. Ils vont informer pendant les cours de préparation à l'accouchement de la possibilité donc de mettre un seul nom ou les deux et qu'est-ce que ça fait quand on en met un ou quand on en met deux. Et donc, c'est une information qui est importante parce que il y a 84% des enfants qui portent uniquement le nom du papa et on se rend compte qu'il y a n'y a pas eu d'information là-dessus. Donc ça, c'est un premier travail. Et après, bon, bah, il y a les articles qui suivent, évidemment. Mais en effet, il y a une désinformation et une complexité au niveau de la déclaration. Et on a eu, donc nous, on a fait une étude, une femme sur 10 n'a pas eu le choix du nom. Et ça, c'est ça aussi qui est dramatique, parce que en 2013, il y a eu la possibilité, ils ont sorti un document de désaccord. Donc la maman, par exemple, si elle s'oppose, elle est en désaccord. Donc ça veut dire qu'il y aura le double nom par ordre alphabétique. Mais la question que j'ai posée au gouvernement, c'est à quel moment elle le donne, puisque c'est le père qui déclare. S'il n'est pas d'accord, il va pas le donner le papier. Donc ça a pas de sens. Et nous, on demande un document signé des deux, un contrôle en fait, juste ça.
Alors on peut imaginer que ça se passe bien à ce moment-là, au moment de la naissance entre le père et la mère, et que s'ils se sont mis d'accord, ça doit fonctionner. Mais enfin, j'entends la restriction qui est la vôtre. Je voudrais qu'on écoute Béatrice. Bonsoir Béatrice.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci. Par quoi je commence? Oh, c'est bizarre, je m'entends raisonner.
Commencez par le début, c'est encore ce qui est le plus simple.
Donc j'ai appelé en effet par rapport au nom de famille. Donc mon nom de famille, évidemment, c'est celui de mon père, parce que évidemment à l'époque il n'y avait pas cette histoire de double nom, etc. Et je pense que ma mère n'aurait rien eu à dire. Aujourd'hui, il a deux particularités. D'abord, il est polonais, ce qui fait qu'il est assez compliqué. Et surtout, c'est celui de mon père, de la famille de mon père. Et on a eu une enfance assez difficile, assez violente. Et ma mère a divorcé, moi j'avais 9 ans, et elle a été déchue de ses droits parentaux. Et porter ce nom, pour moi, ça a été toujours le fait que mon père était là, quoi. Il est toujours présent. Donc c'est quelque chose qui est particulier, mais en même temps qui me fait... C'est très ambivalent. Mmh. Parce que quand je me suis mariée, j'ai porté un autre nom. Pas longtemps. Et là, je me suis dit, ça y est, je m'appelle plus Ruzanski. Mais ça m'a fait bizarre quand même. Et quand j'ai repris mon nom de jeune fille, je me suis dit, ah, je me retrouve. Donc c'est très ambivalent, en fait. Il y a ce poids du père, et en même temps, ce qui est de l'ordre de ma personnalité et de mon histoire.
Merci beaucoup, Béatrice. Et en effet, merci pour cette nuance-là. Marine Gatineau-Dupré, c'est vous, la militante, que cette question s'adresse plutôt. C'est à vous que cette question s'adresse. Moi, je trouve ça hyper intéressant, parce que le nom, parfois, alors c'est pas le cas de tout le monde, mais parfois nous constitue. Et c'est ce que dit notre auditrice, même si son père n'était pas un type bien.
Oui, tout à fait. Après, cette proposition de loi, il faut savoir que ça laisse le choix, en fait.
Ah bon,
c'est si la personne en a besoin. Ça concerne évidemment pas tout le monde. C'est vraiment une quête. Actuellement, les personnes qui en ont vraiment besoin, elles ne peuvent pas, ou c'est surtout avec des motifs affectifs qui sont refusés, c'est très long, comme madame l'avocate l'a dit. C'est ça, en fait, l'avancée. Mais quelqu'un qui veut pas changer, elle ne change pas. On ne change pas les règles. En plus, on parle vraiment de nom de filiation. Donc c'est vraiment les personnes qui vont faire cette démarche, c'est quelque chose qui est attendu. Il faut savoir que quand monsieur Dupond-Moretti a parlé donc de cette proposition-là et du soutien du gouvernement, il y a eu énormément de témoignages d'hommes auprès du collectif Porte mon nom. Et ça, c'est quelque chose qui était nouveau, puisque on était principalement concernés par l'article 1. Et après, donc maintenant, on reçoit énormément de témoignages, parce qu'en fait, on prend les exemples de ces hommes qui vont être futurs papas ou qui sont papas. Ils expliquent qu'en fait, ils n'ont pas pu ou pas voulu donner, enfin, ils n'ont pas voulu donner le nom de leur père à l'enfant. Donc, ils se retrouvent du coup dans la même situation que l'article 1, où il faut qu'ils prouvent être le père, parce qu'ils n'aimaient pas ce nom. Et où certains, ils veulent même pas se marier ou faire des enfants tant qu'ils n'ont pas changé de nom. Donc en fait, il y a vraiment, ça concerne vraiment tout le monde. Mais si cette loi est votée, c'est un choix. On peut le faire qu'une seule fois, et ce sera pour les majeurs. Donc c'est quelque chose qui de toute façon n'impactera pas les autres personnes qui veulent pas le faire.
Évidemment. Et alors là, il n'en a évidemment jamais été question, mais les questions que ça soulève peuvent aussi parfois être intéressantes. Madame l'avocate, comme disait Marine à l'instant, Caroline El-Koubi-Salomon. On disait tout à l'heure, il y a eu peu de demandes jusqu'à présent. Est-ce que c'est une question de génération? Vous diriez que c'est une question de génération, que la nouvelle génération, les nouveaux pères, les nouvelles mères, sont totalement enclines à accoler les noms du père et de la mère après le prénom de l'enfant, ce qu'on faisait beaucoup moins naturellement autrefois. Est-ce que vous diriez ça?
J'ai pas compris, il y a eu peu de demandes de changement.
Il y a eu peu de demandes de changement depuis que c'est autorisé.
Sur
les jeunes générations. Mais désormais, pour les enfants à naître, pour cette génération-là, ces jeunes parents dont parlait Marine à l'instant, est-ce que vous diriez que on voit les choses de manière extrêmement différente et que ça devient beaucoup plus naturel d'avoir son père et sa mère sur son nom de famille?
Pour tout vous dire, moi je ne peux vous donner que l'expérience des dossiers que j'ai en fait.
Par exemple, parce que sinon justement, qu'est-ce que disent vos dossiers?
Eh ben, il n'y a pas beaucoup de doubles noms.
Ah ouais, c'est vrai, ouais. Toujours pas.
Pas beaucoup de doubles noms, c'est pas un sujet, il n'y a pas beaucoup de sujets autour du nom. J'ai pas mal un certain nombre de personnes qui divorcent, qui me disent « Est-ce que maintenant je peux donner mon nom à ma fille ?» Je dis, ça n'a rien à voir. On peut à titre d'usage, bien sûr, ça on peut le faire, on peut déjà le faire à titre d'usage, hein. Mais encore faut-il que le père soit d'accord. Or, ils sont en plein conflit et donc c'est compliqué. Mais non, les demandes de changement de nom que j'ai pu avoir, vraiment de changement de nom, concernent plutôt des personnes effectivement plutôt la quarantaine.
Mmh. Intéressant. Ouais. Qui ont trimballé le bagage.
D'ordre affectif, hein, du coup, plupart, voilà, c'est d'ordre affectif.
Et qui ont trimballé sur leurs épaules ce bagage-là, effectivement, pendant jusqu'à la quarantaine, pendant une grosse partie de leur vie. Claire, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Claire, allez-y.
Oui, alors moi du coup j'ai 24 ans.
Voilà la jeune génération alors.
J'ai fait la demande de changement de nom après avoir mûrement réfléchi cet été. Bon, j'ai pas de nouvelles pour l'instant, mais on m'a dit que ça pouvait durer jusque 2 ans sans avoir une réponse forcément favorable. Donc c'est un peu compliqué, je trouve, au niveau des démarches et surtout des délais. Après moi j'ai fait cette demande parce que c'est uniquement ma mère qui nous a élevés et je trouve ça illogique qu'on ait un nom de famille qui nous représente pas et qui nous donne pas d'appartenance, parce que c'est aussi ça le nom de famille, c'est d'appartenance à une famille, et quand on n'a aucun contact avec celle-ci et qu'on est uniquement élevé par la famille maternelle, c'est dur de pas porter le même nom.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Claire. Marine Gatineau-Dupré, est-ce qu'on conseille à Claire d'attendre que la loi passe, en fait, parce que ça ira plus vite? Est-ce que pour les dossiers qui sont en cours, comme le sien, est-ce qu'on les accélère? Est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Si la loi passe, bien sûr, mais enfin, a priori.
Bah, si la loi passe, de toute façon, à partir de juillet, ça sera possible. Donc, en effet, il vaut mieux attendre. De toute façon, il y en a beaucoup de dossiers en cours, même affectifs, avec des demandes affectives et pas légitimes. Et en effet, du coup, ils vont pouvoir accélérer le processus. Hein. Donc, c'est sûr que ça sera bien pour madame.
Est-ce que vous diriez qu'il fut un temps où une demande comme celle de Claire n'aurait jamais, de toute façon, été acceptée? Est-ce que c'est typiquement les réponses qui revenaient en refus, ça?
Ben, c'est un motif affectif, si je comprends bien. Et donc, en fait, déjà, il y a énormément de personnes qui ne font même pas la demande. Parce que déjà, il faut faire un dossier complet, il va falloir prouver, rentrer dans des choses qui sont intimes. Donc déjà, ils se lancent même pas. Et pour ceux qui se lancent, de toute façon, le motif affectif, il faut vraiment avoir un dossier béton. Et la plupart du temps, ils prennent des avocats. Nous, on a des retours où les personnes ont payé 5000 euros de frais d'avocat. Ils ont mis 7 ans pour avoir une réponse négative. Donc c'est quelque chose de dingue. Et au moins, il n'y aura plus besoin de motif cette fois. Donc voilà, c'est ça aussi. L'avance, c'est quoi?
Et la rapidité. Donc Freddy, bonsoir.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, Freddy.
Eh ben, du coup, je confirme ce qui vient d'être dit par la dame dont j'ai oublié le nom, là, sur le fait que les démarches sont très très longues et puis elles peuvent remuer un peu, du coup, et secouer un peu le passé. Et aussi, financièrement, moi j'ai fait appel à un avocat. J'ai fait un recours par rapport à une décision qui m'avait été donnée négative en première instance. Et du coup, le recours n'a pas abouti non plus, hein, mais bon, ça m'a coûté un petit billet quand même. Donc tout ça pour dire que du coup, moi, en fait, le problème que j'avais, c'était que mon père n'a pas pu me reconnaître à la naissance à cause de mon grand-père maternel, qui a anticipé, du coup, il y avait un conflit à cette époque-là. Donc mon père, du coup, n'a pas pu faire cette démarche-là. Donc je suis, au regard de la loi, né de père inconnu. Mmh. Sur mon extrait d'acte de naissance, c'est écrit comme ça, je suis né de ma mère, mais de personne d'autre. Et du coup, je voulais savoir si la loi pouvait me permettre de faire reconnaître... Donc du coup, la paternité de mon père, qui est décédé hein, depuis très très longtemps, j'étais tout petit d'ailleurs à l'époque.
Mais avant de vous avoir reconnu, il vous avait reconnu avant de décéder ou pas?
Mais non, malheureusement non. Et je pense que c'est là que ça pêche. Ouais. Alors est-ce que la loi, pourtant, il y a, vu que c'était une démarche par rapport à une reconnaissance pour un motif affectif, j'ai apporté plein de témoignages de ma grand-mère maternelle, de toutes mes tantes, il avait 8 sœurs, donc en plus le nom va disparaître, elles se sont toutes mariées. Donc j'ai apporté plein de témoignages, des photos, plein de choses, et au final, bah, ça n'a pas fonctionné parce que, au regard de la loi, mon père n'est pas mon père, en fait, il n'existe pas. En tant que mon père.
Merci Freddy pour ce témoignage, Caroline Elkoubi-Salomon, vous l'avocate. Est-ce qu'effectivement il est dans un corner là, notre pauvre Freddy? Parce que visiblement,
le changement de nom, elle n'est pas forcément liée à la filiation. Ce qu'il faut, c'est prouver un intérêt légitime. Aujourd'hui, la demande d'un changement de nom, si on regarde les textes de loi, il vous dit pas, vous pouvez prendre le nom de votre père ou de votre mère. Vous devez justifier un intérêt légitime.
Est-ce qu'il y a un intérêt légitime derrière cette histoire? Je trouve ça compliqué de vous demander de faire une sorte de consultation.
Il y a un intérêt
mais...
légitime parce que son père aurait voulu le reconnaître, parce qu'il y a un attachement. Mais quand on voit que pour des dossiers beaucoup plus simples, on a des refus, on nous demande des circonstances exceptionnelles, il faut déjà aussi le porter à titre d'usage. En fait, il faut beaucoup de paramètres à prouver. Est-ce qu'on l'a porté à titre d'usage et pendant longtemps?
Ça veut dire que Freddy, là, pourrait, par exemple, au moins porter le nom de son père à titre d'usage. Ça, il peut le faire. Et quitte à revenir à la charge après.
Même pas à titre d'usage, en vérité. Il pourrait même pas le...
Eh ben mon pauvre Freddy, je suis absolument désolé, mais je pense que vous avez déjà entendu.
On peut à titre d'usage porter le nom de son autre parent, mais.
Marine Gatineau-Dupré, vous vouliez intervenir.
Oui, la loi elle est claire là-dessus. En fait, c'est vraiment les filiations établies, c'est-à-dire le nom du père ou de la mère ou les deux. Là, comme c'est pas établi, ça sera en effet un dossier qui sera étudié auprès des services du garde des Sceaux, etc. Une démarche très longue, mais ça rentrera pas dans ce qui va se passer pour juillet, parce que c'est très strict. C'est comme vous disiez, ça sera pas un état civil à la carte. Oui, oui. On peut pas changer les lettres, on peut pas prendre un autre nom. C'est vraiment dans la filiation. Donc c'est pour aider déjà ces personnes-là. Malheureusement, Freddy, désolé, ça sera pas... À moins qu'il y ait des amendements là-dessus, mais ça n'a pas été évoqué.
Du coup, j'ai une question subsidiaire, Marine Gatineau-Dupré. Pour ceux qui ont été déboutés précédemment, est-ce qu'ils peuvent revenir à la charge à partir du mois de juillet, ou est-ce que le simple fait, même ancienne méthode, si je puis dire, d'avoir essuyé un refus, fait qu'on n'a pas le droit de revenir à la charge?
Ah non, là, il n'y aura pas de sujet, parce que de toute façon, il n'y aura pas de motif à donner.
Donc
à partir du moment... Ah oui, il n'y aura pas de souci là-dessus. C'est une fois dans sa vie, on peut changer de nom. Voilà, ça sera en nom direct, en nom de filiation.
Caroline Elkoubi-Salomon.
Oui, faudra juste
lever le doigt, c'est bien.
Faudra juste voir si le procureur s'y oppose ou pas, parce qu'il y a quand même la possibilité pour le procureur de s'y opposer, parce que l'officier d'état civil. Bon, après, il faudrait qu'il soit informé qu'il y a eu une démarche qui n'a pas abouti, mais l'officier d'état civil peut informer le procureur. Le procureur peut s'opposer, et à ce moment-là, on part sur une démarche judiciaire.
On va partir.
Mais je ne sais pas du tout quelle sera la position du parquet. J'arrive pas à imaginer que le parquet va s'opposer à ce type de demande.
Qu'il a d'autres chats fouettés.
Je sais pas.
Par ailleurs, potentiellement le parquet. Mathieu est avec nous. On prend une petite transversale, mais c'est une bonne transversale. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir, mais qui n'en est pas forcément
absolument.
Une. Absolument. J'ai l'occasion de rebondir sur les témoignages précédents. Mais j'ai deux filles d'un précédent mariage. Ma femme m'a demandé si j'acceptais un jugement pour que nos deux filles aient les deux noms, et il y a deux tirets entre les noms. Et puis la troisième fille que j'ai eue avec ma femme actuelle n'a pas de tirets. Donc les deux noms sont associés avec juste un espace entre les deux.
C'est marrant, ça vient d'où l'histoire du tiret en fait? Est-ce qu'on vous a dit...
C'est le jugement de l'époque.
Ah, c'est le jugement de l'époque qui dit qu'il faudra un tiret. Intéressant.
Les adoptions. 2006, me semble-t-il.
D'accord.
Qui ressemblait un peu aux noms espagnols où on finit par associer des noms comme ça. On se demande s'il ne peut pas y en avoir 14 associés les uns aux autres. Mais en l'occurrence, non, ça n'était que deux. Non, moi, j'ai un nom de famille qui, à peu de choses près, est un peu compliqué, en tout cas en majuscule, et qui s'écrit C-U-I-2-L-E. À une lettre près, on peut mal tomber.
Oui.
Alors, quand c'est en minuscule, le E, c'est un E accent aigu. Donc, ça ne pose aucun problème. Quand c'est en majuscule, ça peut en poser un. C'était le nom de mes deux frères.
Vous n'avez pas eu une enfance facile, Mathieu, j'imagine.
ça a été un peu d'autant plus compliqué que quand on s'appelle Mathieu, ça peut aussi être transformé à la volonté.
Ouais.
Donc ça a pu, pour d'autres, être assez amusant. La pire des situations a été vécue par mon frère qui a fait un voyage linguistique en Allemagne. Et il y a 100 Français qui descendent du train. Et quand le responsable allemand fait l'appel, dit « François, couille !» Et là, il y a 100 personnes qui rigolent. Heureusement, mon frère a beaucoup d'humour, mais c'est pas forcément simple quand c'est écrit en majuscule, parce que les gens, quand ils appellent dans une salle d'attente, peuvent facilement se tromper et s'excusent heureusement assez facilement. C'est plus facile de l'écrire en minuscule, ou alors il faudrait intégrer dans les claviers le E majuscule avec un accent.
En tout cas, vous n'avez pas souhaité changer.
Certainement pas. Certainement pas. Notre père est mort il y a 30 ans. Et on avait suffisamment, mon frère et moi, de respect. Enfin, ça va au-delà de tout ça. Parce qu'on ne change surtout pas de nom. D'autant plus que le nom de notre mère n'était pas plus facile à porter.
Mais je comprends l'idée du nom du père, Mathieu. Caroline Elkoubi-Salomon là-dessus. Alors d'abord, moi j'ai une curiosité. Est-ce qu'il aurait eu le droit, s'il avait souhaité, parce qu'on a le droit de le faire depuis un certain nombre d'années, quand on a un nom ridicule, en fait, on a le droit de changer une lettre ou quelque chose qui permet effectivement de déridiculiser, on va le dire comme ça, un nom. Mais c'est pas le cas dans l'orthographe du nom de Mathieu. Donc est-ce que de toute façon, il l'a gardé, il l'a souhaité, c'est tant mieux pour lui, mais est-ce que de toute façon c'est inchangeable? Parce que de fait c'est juste la manière dont on le prononce, en fait, mais il s'appelle Cuiller, donc a priori tout va bien. Vous voyez, donc est-ce qu'il aurait pu de toute façon changer simplement parce que c'est facile de...
Tout se plaît,
vous auriez pris, vous prenez le dossier ou pas?
S'il m'explique qu'effectivement quand il descend du train, il y a 100 personnes qui rigolent, ça constitue quand même un problème, ça peut constituer un problème, ça peut s'expliquer. En tout cas des noms à consonance ridicule que j'ai pas trouvé non plus, quand le client me l'a expliqué, j'ai pas trouvé ça... absolument terrible, et ben on a obtenu le changement de nom. Et il a demandé un nom complètement différent.
Ah bon, c'est possible? Moi, je pensais qu'il fallait qu'on change juste une petite consonance.
Je dis nannerie, pardon. Voilà, il avait demandé le nom de sa mère.
D'accord.
C'est vraiment parce que le nom de son père était ridicule. C'était pas affectif.
Et quand le nom est ridicule, est-ce qu'on prend le nom de sa mère le plus souvent, ou est-ce qu'on a le droit de changer une lettre donc une seule pour...
Il n'y a pas de règle.
Bon, ah bon? Donc ça veut dire qu'on peut s'inventer un nom. Je veux dire, pardon, on va le dire, mais si Monsieur Couille décide de s'appeler Monsieur Pouille, c'est plus facile. Donc du coup, on rajoute un P et le P va traîner ensuite dans toute la famille. Ou est-ce qu'on change intégralement?
Alors là, la colle pour l'avocate. Je dois dire que...
Non, mais écoutez, on a le droit de pas savoir en même temps.
Hein. Pour vérifier, mais
c'est pas du tout un souci. Je m'interroge pour savoir si on a le droit de changer une lettre et si tout le monde part avec cette lettre après, pendant les générations qui suivent. Et ben, pendant qu'on écoute Michel, vous allez peut-être pouvoir trouver la réponse à cette question. Bonsoir, Michel.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ma question concerne la troisième ou quatrième génération. Mm-hmm. Dans la mesure où, par exemple, on a une famille Dupont-Durand, qui, Monsieur Dupont-Durand a épousé Madame Duport-Duchemin.
Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Donc, à la fin, est-ce que l'enfant s'appelle Dupont-Durand-Duport-Duchemin?
Voilà, à propos d'une épouse. Évidemment, alors, au niveau de la troisième et quatrième génération, on se souviendra plus que la racine était Dupont, Duchemin, etc. Donc, une question de fierté, peut-être. Ou au contraire de honte, je ne sais pas, mais c'est un aspect qui me paraît, qui m'interpelle, je dirais.
Merci beaucoup pour votre question, Michel. Marine Gatineau-Dupré. Les Espagnols l'ont réglé avant nous, ça, en fait.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que nous, c'est ce qu'on a remarqué, là, justement cette méconnaissance déjà de la loi, de il y a un seul nom qui sera transmissible. Et il faut savoir que le double nom, déjà, ça a donc lieu depuis 20 ans. Mmh. Et c'est déjà au choix le nom qu'on transmet. Donc en fait, on change même pas la loi là-dessus. C'est vraiment au choix quand il y a un double nom. Et finalement, c'est souvent le nom du père en premier. En fait, ça changera pas. Il y aura le nom du père qui va être transmis à l'enfant et la mère va peut-être donner le sien ou pas. Mais s'il y a des deux noms de chaque côté, il y aura pas quatre noms, évidemment, au niveau pour l'enfant.
Mais est-ce qu'on pourra... Oui, mais alors est-ce que ça deviendra pas compliqué? Pardon, hein, je le fais exprès. Si on choisit de donner pour un enfant le nom du père à coller disons le premier nom de la mère a connu au deuxième nom du père, ou l'inverse. En gros, est-ce que ça veut dire que une fois qu'on a décidé, je vais le refaire, si on a un père ou une mère avec un double nom de famille chacun, est-ce qu'ils sont, on est d'accord qu'on est tenu de donner, de faire le même choix pour les enfants de ce couple-là?
Ah oui, okay. Oui, oui, évidemment. Par contre, ça, c'est, oui, toujours la fratrie, la même chose. Ouais. Donc ça, c'est important. Et on en a parlé au niveau des généalogistes là-dessus. Et ce qui a été important et évoqué au niveau de la commission des lois, c'était que ce soit bien informatisé et qu'il y ait un bon suivi. De toute façon, ils y attendent. Et d'ailleurs, c'est dit, hein, pourquoi c'est au mois de juillet la mise en application. C'est parce que les logiciels vont être adaptés pour simplifier, justement, pour retrouver les filiations, etc. Mmh. Pour savoir de quelle branche, en fait, ça va être lié.
Jean-Claude est avec nous. Bonsoir Jean-Claude.
Oui, bonsoir et merci de vos émissions. Ben écoutez, moi j'ai 63 ans et depuis que je suis tout petit, mon père m'a abandonné quand j'avais un an. Je ne l'ai jamais connu. Quand il est la seule chose qui est transmise, c'est un patrimoine, enfin un patronyme, enfin un nom. Et voilà, et ma famille était une famille recomposée et précoce. Je dirais que ma mère étant abandonnée avec deux enfants, est revenu chez ses parents et sa mère, en fait, était avec un monsieur qui avait encore un autre nom et ma grand-mère avait un nom différent de ma mère. Donc, on était cinq dans la famille avec trois noms différents. Et ça m'a fait beaucoup souffrir à l'école et partout, d'ailleurs, parce que je comprenais pas pourquoi je m'appelais comme ça, parce que ça n'avait aucun sens pour moi. Et même après, quand j'ai fait des analyses, même de la psychanalyse, je veux dire, ça a fait rigoler mon psychiatre.
Vous avez commencé par là.
Je parlais de mon grand-père adoptif parce que pour moi, c'était un homme de référence. Enfin, le sens d'un nom était de la relation vécue.
Et Jean-Claude, est-ce que vous dites aujourd'hui, est-ce que vous vous dites, il est encore temps de changer? Est-ce que surtout maintenant que c'est facile,
oui,
est-ce que vous vous dites il est encore temps? Est-ce que vous vous dites je vais le faire d'ailleurs? Vous
tout
y pensez ou pas?
J'y pense tout à fait parce que ça me pourrit la vie, je dirais, à plusieurs sens. Parce que pour moi, la filiation est plus importante que le sang, en fait. Ben, je suis plus Antigone que voilà, donc j'ai un lien qui est affectif. C'est-à-dire la filiation, pour moi, elle est avant tout un lien de transmission de présence et pas une transmission de patronyme. Ou de génétique. Et pour moi, je serais prêt à faire le pas de changer de nom, oui.
Eh bien écoutez, maintenant que c'est plus simple, vous pouvez le faire, Jean-Claude. Caroline Elkoubi-Salomon, on peut le faire avec juste un livret de famille, c'est-à-dire si Jean-Claude a perdu sa mère, par exemple, désormais. Donc, est-ce qu'on peut venir demander un changement de nom quand on est dans un cas comme le sien, disant « je voudrais le nom de la mère ». Ouais, je voudrais le nom de la mère, je voudrais le nom de ma mère, mais la mère a disparu, donc on arrive juste avec le livret de famille, ça suffit pour pouvoir.
On arrive avec son acte de naissance, parce que dans l'acte de naissance, vous avez la filiation.
D'accord. Donc on n'a pas besoin de.
D'ailleurs, on va vous demander en vérité votre acte de naissance surtout.
D'accord.
Parce que toutes les mentions, y figurent.
Qui est le suivant? C'est Fabienne, pardon. Fabienne,
oui,
bonsoir. Pardon,
bonsoir.
On vous écoute.
Oui. Alors écoutez, moi, ça fait quelques années, que j'aurais souhaité récupérer mon nom de famille. C'est mon père qui a changé son nom à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
D'accord. Wow.
Son nom était trop compliqué, consonance, voilà, trop compliqué. Donc il l'a simplifié. À l'école, on m'appelait avec un nom. Alors oui, bien sûr, c'était mon nom, mais on m'a toujours appelé avec ce nom. Je me suis toujours dit mince, j'aimerais bien récupérer le nom de mon père. Et il se trouve que dans les papiers de mon père, j'ai très peu de choses. Toute sa famille a été déportée. Alors lui, c'était le seul survivant. Il y a quelques documents. Hein. Mais voilà, j'y pense et puis j'oublie parce que je pense que c'est quand même le parcours du combattant. Mmh. Mais j'aurais bien aimé, à la fin de ma vie, m'appeler de mon vrai nom, en fait.
Voilà. Merci beaucoup, Fabienne. Merci vraiment, Caroline Elkoubi-Salomon. Pardon de vous poser un cas d'école, hein, mais est-ce que c'est faisable? Ça, c'est possible ou pas? Et c'est fou parce que l'histoire de Fabienne, elle est assez, j'allais dire classique, pardon de le dire comme ça, mais il y a plein de gens qui, en changeant de pays, au moment de l'état civil, au moment de se réinscrire, etc., ou pour des raisons de protection, etc., ont changé soit l'orthographe, soit la consonance, soit beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut revenir en arrière?
C'est pareil, en fait, l'article 61, il est très laconique. Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Donc moi, je pense que...
Ça veut dire qu'on peut essayer, mais c'est pas sûr que...
Voilà, en fait, c'est très difficile de vous dire oui ou non, parce qu'en fait, est-ce que c'est un intérêt légitime pour elle? C'est à elle de l'expliquer.
On plaide sa cause dans ces cas-là? On plaide vraiment sa cause individuellement?
Oui, on fait un dossier. Là, moi, j'ai pris comme ça une requête que j'avais. J'ai dit, donc, j'avais 18 pages avec 60 pièces. Bon, et pourtant, ça me semble acquis dans le dossier. Mmh. Là, dans le dossier de... Donc, c'est son père qui a, donc, qui a francisé son nom, quelque part, après la guerre. Hein. Alors, ça rentre aussi un petit peu dans l'idée de... Parce que là, ce que dit le texte, c'est le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction d'un nom porté par un ascendant. Mmh. Alors, bon...
Vous le prenez, le dossier, vous, l'avocate, ou pas? Vous réfléchissez?
Bah, j'essaie déjà de regarder. D'abord, je parle pendant une heure avec elle. J'essaie de comprendre bien son intérêt légitime. Et après, on va essayer de chercher ensemble des pièces. Moi, mon idée, c'est de convaincre le garde des Sceaux, quoi.
C'est une question pour vous qui vient, Marine Catineau-Dupré. C'est une question de Lucas sur franceinter.fr qui dit « Cette proposition de loi est bien trop timide. Il faudrait au moins l'étendre au nom des grands-parents ou bien même délier de la généalogie des requérants le nouveau nom qu'ils veulent adopter. » Attendez, je vais refaire la phrase parce que moi-même, je ne l'ai pas bien compris. Il faudrait au moins l'étendre au nom des grands-parents ou bien même délier de la généalogie des requérants le nouveau nom qu'ils veulent adopter. Qu'est-ce que vous en dites?
Là, après, ça appartient aux sénateurs, maintenant, s'ils déposent des amendements à ce niveau-là. Mais ça n'a pas été, pour l'instant, demandé au niveau des députés. Donc là, en fait, ils sont restés en filiation directe pour le moment. Et quand c'est en filiation indirecte, c'est passé par une procédure classique du garde des Sceaux, très longue, etc. Là, c'était une simplification, mais directe.
Mais vous, est-ce que vous voulez pousser encore un peu plus loin une fois que cette étape-là sera acquise? Au nom du collectif porte mon nom, est-ce que vous voulez pousser ou est-ce que vous vous dites là, on est en train d'avoir ce qu'on réclame depuis un bout de temps?
Non, tout ce qu'on avait demandé, nous, ça a été abordé. On ne demandera pas plus parce que c'est possible. Et non.
Voilà, non mais très bien. On peut dire non. Oui. Caroline Elkoubi-Salomon, pardon, je vous donne que des cas d'école comme ça, mais il y en a un là sur franceinter.fr. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un changement de nom quand on change juste un bout d'orthographe, comme un accent par exemple?
J'avoue que c'est la même question que tout à l'heure, vous me posez un peu une colle.
Je suis désolée, parce que là, subitement, ça me vient. Est-ce que quand on change un accent... Moi, par exemple, je m'appelle Saintesse, ça s'écrit sans accent, mais comme au-dessus de la Loire, tout le monde nous appelle Sainte, certains dans ma famille ont réhabilité un accent. Est-ce que officialiser cet accent équivaut à un changement de nom?
Ah oui, une rectification. C'est pas une rectification d'état civil, c'est un changement de nom, il faut l'expliquer.
Ouais. D'accord. Est-ce que le fait qu'on prononce le nom un peu n'importe comment est une justification qui a du sens ou pas? Ça suffit ou pas? Je sais pas, moi aussi ça me paraît compliqué. Je ne ferai pas la démarche personnellement.
Je vous dirais, il faudrait vraiment que je fasse des recherches de jurisprudence pour voir si ça a été accepté. Comme j'avoue que je ne me suis pas posé cette question parce que je n'ai pas eu de dossier, j'avoue que je...
Eh bien, faites donc des recherches, rappelez-moi. Merci beaucoup, merci vraiment, merci à toutes les deux de votre participation, merci à tous pour vos nombreuses questions.